Donc, ben on est ravis que Stéphane nous ait rejoint ce matin. Ceux qui étaient au film hier soir, on avait déjà commencé le programme donc sans toi avec Mourir plutôt crever qui a été diffusé hier à 21h. Donc, moi je me disais qu'en revoyant ta filmographie, voilà, on était ravis de t'accueillir parce que c'est vrai que ces femmes documentaristes françaises, hein, qui suivent depuis plusieurs décennies, c'est pas pour te vieillir,
C'est vrai, c'est
quand même des thématiques de résistance. Ben voilà, on en a accueilli plusieurs. On avait Françoise Davis l'année dernière, qu'on aime beaucoup, qu'on a beaucoup appréciée. Il y a Mariana Otero qui était là il y a 3 ans. Il y a plus longtemps, Claire Simon, Chantal Akerman. Et c'est vrai que je trouve que tu fais partie de cette lignée. Et on va pouvoir donc reprendre avec toi ton parcours. Parce que nous, on est toujours curieux de savoir comment est né le désir du documentaire. Il me semble que tu n'étais pas du tout partie dans cette direction-là, puisque tu as fait des études de droit. Donc je voulais commencer par savoir comment tu en étais venue au documentaire.
C'est marrant que tu poses cette question-là aujourd'hui parce que c'est Christophe Oxenberger en fait qui a été celui qui m'a. T'es pas obligé de me piquer mon
Ah mince,
café.
pardon. Attends, et
Je
puis
garde.
j'étais en train de me dire que ton son était un peu faible, non? C'est ce que tu
Non,
disais,
c'est parce que je
Chantal,
parle
aussi.
doucement peut-être.
Oui.
Voilà. Moi j'ai effectivement j'ai fait du droit donc rien à voir. J'ai erré un peu comme on peut errer dans ces années-là, pas savoir quoi faire. Et puis à un moment, en fait, j'ai croisé la route de Christophe qui faisait un film sur les réfugiés. J'avais un peu travaillé pour une association humanitaire. Voilà, je suis rentrée en assistante de prod. Et puis j'ai découvert cet univers du documentaire, mais pas du tout avec l'idée
Attends, je pense que ça devient mieux. Ça,
C'est bon?
c'est le 2. Je pense qu'il faudrait. Non, c'est le 1 en fait. Donc, on va augmenter le 1, mais c'est le 2 et rester sur toi.
C'est bon, hein?
Ouais, c'est
Ouais.
bon. Merci.
Et du coup, en fait, j'ai fait les ateliers Varan à ce moment-là, qui est Claire Simon vient des ateliers Varan, Mariana Otero aussi, donc c'est quand même un endroit où c'est une formation professionnelle courte, hein, de 3 mois, mais où on apprend ce que c'est que la relation filmeur-filmé. Il y a quelque chose comme ça qui. Et je pense qu'on a ça en commun, probablement, dans cette façon de filmer l'autre et de se questionner en tout cas sur ce que ça veut dire de filmer l'autre, comment on filme, d'où on filme, la distance, toutes ces questions qui parcourent le cinéma documentaire. Et ça, je l'ai fait grâce à Christophe. Voilà. Et à la fin du stage, à l'époque, c'était vraiment une autre époque, Arte venait, des gens d'Arte venaient pour voir les films de fin de stage. Et donc à l'époque c'était Claire Dutriot qui travaillait avec Thierry Garrel, c'était la grande époque du documentaire sur Arte. Et elle a acheté le film de fin de stage, qui est un film sur une femme de ménage et sa relation avec les patrons. Voilà. Et à partir de là, je me suis dit, bah, après tout, voilà, je suis réalisatrice. Et bon, après, ça a été un peu plus compliqué, évidemment. J'ai appris parce que je savais quand même pas faire grand-chose. J'avais surtout pas très bien filmé. Donc je lâche très bien filmé, mais enfin j'ai quand même un peu plus de bouteilles aujourd'hui. Voilà, après j'ai fait d'autres choses, j'ai fait un journal, voilà, j'ai senti que c'était là que je pouvais, je trouvais ma place, enfin je sais pas comment dire, que je comprenais aussi ça. Peut-être c'est une façon aussi de comprendre le monde pour soi-même, enfin de filmer l'autre, c'est. Évidemment, c'est donner à voir à des spectateurs, mais c'est aussi se donner à voir à soi-même, comprendre soi-même, cheminer à chaque film, rencontrer, évidemment.
Alors, voilà, juste pour faire repérer, tu as évoqué Christophe Hotzenberger,
Otzenberger,
et donc si tu veux, on va, oui,
oui.
voilà,
Voilà,
juste pour
pardon,
dire qu'on est
excusez-moi, oui.
sur donc avec qui donc il y a eu la réalisation de Petit arrangement avec la vie qui va être projeté ce soir à 21h, mais ça on y reviendra à la fin puisque c'est presque un de, enfin c'est pas ton dernier film parce que tu réalises beaucoup, mais on va y revenir après. Ton premier film dont tu parles là, qui a été pris par Arte, donc c'est Scène de ménage avec Clémentine.
Ouais.
Donc déjà, à ce moment-là, tu es dans un questionnement qui t'amène vraiment vers le social. Tes premiers sujets, ça va être beaucoup des questions. Il y aura le logement aussi. Mais là,
ouais, je suis du côté, je suis de son côté à elle. En fait. Voilà, mon point de vue, c'est le sien. Enfin, c'est de regarder en tout cas avec elle ce qui joue dans la relation, comment elle s'en débrouille. Et je crois que j'ai toujours été de ce côté-là. Et donc oui, ensuite, à l'époque, ça paraît bien lointain, sans domicile ont commencé à faire face à cette réalité-là. Ça faisait quelques années, mais très peu quand même, et les gens dans la rue, c'était un truc dingue. Aujourd'hui, ils ont les enjambes sur les trottoirs de Paris, de toute façon, quotidienne. Et là aussi, j'ai eu envie d'aller voir, de comprendre, de me saisir de ça. Donc j'ai fait mon premier film toute seule, qui n'est pas très visible, mais où j'ai suivi une lutte pour le logement qui s'appelle Vivre sans toi. Où j'ai passé un an avec des familles, avec Lutte du Dal, et puis qui m'a amenée au second, qui a été le premier produit vraiment... avec un peu des gens aussi qui me renvoyaient des questions et donc qui m'ont permis d'élaborer un peu mieux le film, parce que tout seul c'est quand même c'est compliqué de tout faire tout seul, de penser, de filmer, on a quand même besoin d'autres. Et j'ai fait Cherche à venir avec toi, qui était donc le moment où je m'étais arrêtée au précédent, c'est-à-dire le moment où les gens vont quitter la rue. Pour se réinstaller dans un logement, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Et j'ai fait ce film-là. Entre-temps, j'avais passé 3 ans à la rue, qui était un journal vendu par les sans-domicile fixe. Et donc j'avais vu des gens, notamment le responsable des vendeurs, qui restaient à l'hôtel et qui ne voulaient pas récupérer un appartement. J'arrivais pas à comprendre. Et je crois que le film est parti de là, en fait. À un moment, j'ai compris ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais je préfère... alors que ça lui coûtait une fortune, évidemment, les chambres d'hôtel tous les soirs, ça lui coûtait bien plus qu'un appartement. Et il m'a dit, mais je préfère ça que de reprendre le risque de me retrouver à nouveau à la rue, expulsé, de revivre ce truc. Et tant qu'il était en appartement, en fait, il n'était pas vraiment dans un logement, donc même s'il quittait l'hôtel, c'était pas pareil ce qu'il jouait. Et donc voilà, donc je suis partie de cette peur, de qu'est-ce que ça veut dire, voilà, c'est pas si simple évidemment. Ça a été, du coup j'ai passé une dizaine d'années sur ces questions de logement, de sans-domicile.
Ouais, c'est les années 90 avec les luttes du Dal, on était imprégnés par ça, même quand on était loin de Paris. C'était quand même très présent. Effectivement, ce magazine La Rue qui avait été quand même quelque chose de très différent, enfin très innovant. Je ne sais pas si le mot innovant est bien posé.
Non, c'était un beau projet. Après, ça a été très compliqué. Mais... Parce qu'il y a plein de gens qui se sont mis sur le marché. Donc qui ont fait des choses pas bien. Donc ça, voilà. Mais bon, c'était une chouette tentative en tout cas, qui a dû quand même durer 3 ans. Qui était une belle histoire.
Dans ton parcours, à ce moment-là, c'est là où tu commences à travailler avec une société de production qui s'appelle Iskra.
C'est sur Cherche à venir avec toi, en fait, où effectivement j'avais eu le temps de penser le film, puisque le précédent datait de 3 ans, j'avais travaillé à la rue, donc le film était quand même très... Et donc j'ai obtenu une aide du CNC, et le CNC mettait à disposition des producteurs tous les... Enfin, les résumés des films, et j'ai été contactée par plusieurs sociétés de production, et c'est là qu'a démarré ma collaboration avec Iskra, qui dure toujours.
En pointant ça, c'est vrai que on aime bien aussi dans ces moments-là essayer de parce que Iskra, on projette pas mal de leurs films, on les connaît pas trop, mais c'est vrai que c'est une société de production très exigeante, très engagée, Et je ne sais pas aujourd'hui, enfin, comment tu vois un peu le parcours de cette société où tu es très liée avec eux, j'imagine.
Alors, Iskra, donc, née dans les années 60, en 67, ça démarre par Sloan Iskra avec Inger Servolin, qui est aujourd'hui évidemment à la retraite, qui a plus de 80 ans, qui a été la productrice du Fond de l'air rouge. Voilà. C'est la naissance d'Iskra, c'est là. Et après, c'est, alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est des choses assez mythiques. Pour un certain nombre de gens, c'est le groupe Medvedkin qui sont des ouvriers, voilà, suite à un film de Chris Marker, les ouvriers, avec Pierre Lhomme qui vient de mourir, le chef opérateur Chris Marker et tout ça, ils vont leur donner les outils pour faire eux-mêmes leur film et il va y avoir ce groupe à Besançon qui va s'appeler le groupe Medvedkin en hommage à un cinéaste russe. Voilà, ce qui est un truc assez exceptionnel dans l'histoire du cinéma. Et donc, ils vont avoir tous les films de ces années-là, un peu militants, Bono Muel, enfin voilà. Donc, ça va être autour d'eux que les cinétractes, enfin, toutes ces choses-là, c'est Iskra. Et puis après, voilà, il y a une période un peu de sommeil un peu plus tard. Et ça repart avec les premiers films de Dominique Cabrera. Voilà. Et donc Iskra est effectivement toujours une société qui prend le temps de faire le film, qui est exigeante dans son contenu politique, c'est peut-être réducteur, mais enfin, d'un engagement de quelque chose, en tout cas dans le cinéma et dans ce qu'on en dit. Mais c'est une société qui est hyper fragile parce que la situation actuelle de la production est absolument catastrophique. Enfin, tout le monde va dans le même sens, le CNC, etc. Tout le monde trouve qu'il y a trop de. Enfin, tout le monde. Les gens qui ont de l'argent, qui financent, trouvent qu'il y a trop de films et trop de sociétés de production. Et donc, la logique veut qu'on élimine les petits pour avoir des grosses sociétés qui puissent faire des films à l'international. C'est un peu ça l'idée sous-jacente, évidemment renforcée par l'arrivée de Macron, qui va évidemment pas contre ce genre de logique. Donc voilà, mais elle était déjà à l'œuvre, hein, mais voilà, donc plein de choses. Donc c'est compliqué. Voilà, c'est très 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 fragile, très compliqué. Là, les films en salle, c'est compliqué aussi, hein, parce que les salles perdent des spectateurs beaucoup. Hein. Utopia Avignon me disent qu'ils perdent 20 000 spectateurs par an, ce qui n'est pas rien. Voilà. Donc, pourtant, c'est une salle hyper active. Hein, donc, voilà, c'est tout ça est très, très fragile. Les petits films, voilà, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, mais un peu quand même. Non, c'est cher, enfin, même si c'est pas très cher, ça, c'est toujours des sommes, c'est pas négligeable.
Alors, on va revenir sur la réalisation, parce qu'en plus, les films en salle, pour toi, c'est plus récent. Pendant les années 2000, tu commences, enfin, et 90, tu es plus sur des films que tu arrives à faire produire, coproduire par la télévision. Il y en a un qui est aussi, que certains d'entre nous connaissent, qui est sans principe ni précaution, le Distille Ben. Donc ça, c'est aussi des thématiques qu'on a beaucoup abordées à Résistance, et ce film en particulier... je crois que tu l'avais aussi écrit avec ta mère, hein, qu'on a vu dans le film hier. On va toujours tisser tes films, tisse beaucoup de liens avec tes proches.
Je ne l'avais pas écrit avec elle, je lui avais demandé, parce que c'était un film d'enquête en fait. Elle est journaliste et moi, voilà. Donc il y avait quand même plein de trucs à vérifier que moi, voilà, j'avais. Bon, il ne faut pas dire de bêtises et tout ça dans ce genre de choses quand on met en accusation. Donc c'était un dossier complexe, donc je lui ai dit. Voilà, je l'ai fait intervenir et elle a travaillé avec moi sur tout ce travail d'enquête, de vérification, de... Voilà.
Ça, c'est un film que tu as pu faire tourner aussi en festival ou qui était resté surtout
non.
Pour la télévision.
Le premier film qui tourne vraiment, ça a été Hôpital au bord de la crise de nerfs. Ouais. Qui est après, en fait. C'est le film suivant, c'est en 2002-2003. 2003 et parce que donc c'est sur la problématique de l'hôpital, bon, il est toujours d'une grande actualité Et à l'époque, Attac fait beaucoup circuler le film. Mais jusque-là, en fait, il n'y avait pas tant que ça. Enfin, il y avait quelque chose qui s'était passé qui était un peu mort. Hein, parce que les films circulaient beaucoup, justement dans les années 70, avec les CE. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de projections dans les entreprises, avec les ouvriers. Enfin, il y avait un gros tissu comme ça. De... Et puis, en fait, tout ça s'arrête avec l'arrivée de la gauche. En fait, il y a tout ce tissu-là qui se délite, et puis ça repart ben, dans ces années-là, et on revoit les projections redémarrer. Mais ça reste des films qui étaient fabriqués pour la télé, donc les projections à ce moment-là sont un plus, et c'est super, mais je découvre aussi effectivement. Parce qu'en télé, quand un film passe, on a zéro retour, donc c'est très frustrant aussi. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, éventuellement on a un taux d'audience qui ne nous dit absolument rien, mais on ne sait pas ce que ça provoque chez les gens, donc c'est évidemment pas pareil.
Moi il y a un film qui m'avait beaucoup plu à l'époque, en 2004, c'est Louis, son père, ses mères, son frère et ses sœurs. Je regarde le public, je me dis toujours, il y en a certains que vous n'avez peut-être pas loupé. Et c'est vrai qu'on est longtemps avant le mariage pour tous, et on est sur cette question de la famille recomposée, et surtout avec multiples facettes. Et je me demandais comment toi, du coup, tu circulais, parce que là on a bien vu logement, l'hôpital, l'environnement, la famille. Comment toi tu circulais vers ces thématiques-là? Parce que c'est quand même une période, enfin tu réalises régulièrement, tu enchaînes quand même un peu les films, comment...
Oui, je fais à peu près un film par an, mais c'est ce qu'il faut faire pour en vivre. Après, c'est des histoires, c'est jamais la même chose. Hein, c'est toujours un peu... Hôpital, je l'avais fait parce que j'ai une amie qui travaillait à l'hôpital qui m'avait raconté ce qui s'y jouait, donc voilà... et là, Louise, en fait, là pour le coup, c'est ma mère qui était très copine, donc avec. Moi aussi, je connaissais très bien en partie en vacances avec eux, avec les Filoche, parce que c'est d'eux dont il s'agit. Vous voyez qui est Gérard Filoche ou pas? Donc, c'est d'eux dont il s'agit. Donc, et avec Louise, donc cette fille dont il s'agit. Donc. Elle leur a demandé de faire ce film et on a fini par avoir leur accord une fois que Louise avait 18 ans et que Sylviane, une des mères, était à la retraite. Donc je vous dis en deux mots, je vous resitue de quoi il s'agit. Donc en fait, moi j'ai pas filmé un film sur finalement l'histoire de mon parentalité sur laquelle j'ai peut-être... Enfin, j'ai des choses à dire, mais comme n'importe quel citoyen, Pékin, moyen, sans, voilà. Mais par contre, j'ai filmé une histoire d'amitié et d'amour. Voilà, c'est ça qui est de d'engagement. Donc, pour le coup, et donc, je crois que en fait, je les ai filmés normalement. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que donc Gérard et Françoise, celle qui allait devenir sa femme, ils étaient à la Ligue, à la SR à l'époque, et Sybille aussi était une copine à eux, et Sybille était lesbienne, et quelques années plus tard, enfin bien des années plus tard, parce qu'ils avaient déjà trois enfants, Gérard et Françoise demandent à Françoise si... elle veut bien lui prêter Gérard pour avoir un enfant avec sa compagne Sylviane. Et donc Françoise accepte, Gérard aussi, et Louise est née. Donc voilà, donc tout ça se raconte autour essentiellement d'un dîner à table. Et donc chacun y va de son récit, et donc les quatre enfants sont là. Et donc ils ont appris en fait au fur et à mesure de cette histoire, parce qu'au départ Gérard faisait un enfant à Sybille et Sylviane, mais voilà, il donnait son sperme, en y mettant un peu du sien, mais c'était à peu près tout. Puis en fait, évidemment, la suite a fait que ça ne s'est pas passé comme ça, qu'il a fallu réajuster sans cesse. Et comme ils étaient très amis, ils partaient en vacances ensemble et tout ça s'est réajusté avec plutôt joliesse tout du long, quoi. Et donc autour de ce repas, il y a les enfants, et donc ils racontent, au début ils ne comprenaient pas très bien, donc il y en a une qui dit, bah, moi j'ai cru que Louise elle n'avait pas de papa, donc il fallait lui prêter mon papa, donc je lui prêtais mon papa, enfin voilà. Donc il y avait tout, voilà, il y a ce récit de chacun et de chacune, hein, où Gérard reste assez en retrait sur son, il ne voulait pas se départir de son discours politique, voilà, donc il est resté vraiment là et surtout pas rentré dans quelque chose qui serait un tout petit peu plus... Donc on a essayé par tous les bouts de l'attraper, mais il est resté de marbre. Par contre, les femmes racontent... voilà. Et les enfants, je voulais que les enfants s'y racontent, mais à part ce moment comme ça, mais finalement, ils n'avaient rien à en dire parce que voilà, c'était comme ça, il n'y avait rien à dire de plus que... Voilà, donc j'avais essayé... En tout cas... À l'âge où avait Louise, elle est peut-être plus tard ou peut-être plus petite, mais à 18 ans, elle disait oui, bon, bah, voilà encore. Voilà, ça fait un film qui pour le coup, alors là, avait été pris et par France 2, 3, et par Arte. Donc on a eu la double.
Ça intéressait les gens, même si politiquement on n'était pas encore prêts.
Oui, parce qu'ils sont super. Enfin, c'est assez drôle et assez émouvant aussi, parce que Sylviane raconte aussi la difficulté de ne pas exister, parce qu'aux yeux de ses collègues, elle assumait assez mal tout ça. Enfin, et aux yeux de ses collègues, donc c'était une vieille fille avec un petit chien, quoi. Enfin, voilà, donc elle a, voilà, tout ce qu'elle vivait, d'être mère, d'être. Femme, tout ça, elle ne pouvait pas le dire. Hein. Elle n'avait pas dit à ses parents. Enfin, voilà. On a dû attendre que ses parents... Sa mère était morte aussi quand elle venait de mourir quand elle a fait le film, sinon elle ne l'aurait pas fait. Hein. Sybille était plus à l'aise avec ça, donc elle l'affirmait plus, mais Sylviane, non.
Et alors là, c'est vrai que bah, tu commences quelque chose qu'on... Enfin, peut-être que tu l'avais fait avant, mais qu'on a découvert aussi hier, c'est cette... faculté à aller filmer tes proches, parce que comme tu disais, c'était des familles amies avec qui tu partais en vacances. Dans le film d'hier, Mourir plutôt crever, donc là, c'est donc, ta mère, ciné que tu considères comme ton père, et donc faire un récit sur ses proches en étant embarqué par ses sentiments et puis le quotidien de quand tu filmes avec eux. Comment c'est quelque chose qui t'a paru très simple et que t'as apprécié dès le départ, c'était déjà mêlé dans ta vie ou
Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'attendais qu'un film soit fait sur Bob, sur Ciné. Et puis, il ne s'est pas fait. Enfin, il y a quelqu'un qui l'a filmé, mais très mal, donc c'était pas bien. Voilà. Donc, bon, il vieillissait. Il avait des soucis de santé, donc je me suis dit, bon, il faut faire un film. Et j'ai donc écrit un film très assez précisément. Et je ne voulais pas démarrer ce film sans argent. J'avais besoin d'un clap de début. J'avais dit, voilà, parce que sinon, voilà, la question de la distance, comment on filme justement un proche. Donc je voulais un espèce de truc un peu, voilà, je viens, je suis réalisatrice, clap de début, clap de fin. Je voulais m'inscrire dans quelque chose comme ça. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça parce que on n'avait pas de sous. Et puis l'affaire, il se fait virer de Charlie Hebdo. Et donc là, bah, je filme. Voilà. Et donc je filme avec en sachant pas très bien où j'allais. Heureusement, j'avais écrit des choses, donc j'ai pu me raccrocher à cette partie. Qui sont tous les entretiens, notamment que je fais avec lui autour du passé, Malcolm X, Jacques Prévert, enfin, toutes ces choses-là, ça qui était déjà prévu. Alors, évidemment, ça avait l'énorme avantage, c'est qu'au lieu de raconter un combat au passé, je le racontais au présent, puisqu'il était, du coup, il redevenait extrêmement actif et en lutte à ce moment-là. Donc ça c'était super. Après, comme cinéaste et fille, c'était compliqué parce que j'arrivais, donc le journal s'est lancé dans la maison de mes parents, dans leur salon, moi j'avais mes enfants petits, donc entre l'un qui me secouait comme ça en disant je veux mon goûter, l'autre qui me disait tu veux pas aller chercher une bouteille de vin à la cave, et on bousculait parce que en même temps, voilà, on n'est pas pris au sérieux complètement. Enfin, il y a un truc comme ça. Enfin, si, on est pris au sérieux, mais voilà, c'est pas très grave. Hein. Donc l'espèce de sacralisation du plan qu'on est en train de faire, tout le monde s'en fout. Enfin, voilà, elle me dit, tu pourras appeler le journaliste, là, il faut le... Bon, je me suis débrouillée avec ça, ce qui donne aussi, je pense, cette urgence, cette façon un peu comme ça de filmer, voilà, qui finalement voilà, marche. Et à un moment, j'étais complètement perdue, je savais plus du tout quel film je faisais, évidemment, parce que voilà, je savais pas si je faisais la chronique d'un journal, si je faisais... Voilà, donc il a fallu que je me repose et que je reprenne du recul pour réussir à faire ce film qui est...
Marche. Oui, je vois que vous aimez un petit peu les situations compliquées parce que dans tout ce que vous expliquez de vos films, à la fois vous cherchez un thème social engagé, mais il y a l'intime qui arrive là et qui brouille les pistes à chaque fois. Quand vous avez raconté cette histoire de repas, donc on est dans de l'intime, mais on est quand même dans une étude sociale des familles recomposées, on va dire, ou du genre, de toutes ces choses-là. Pour Ciné, par exemple, bah, on est quand même en plein, c'est un film politique, il ne faut pas oublier de le dire, parce que Ciné, c'est un bonhomme politique, très engagé, et on est toujours dans la maison, avec les chats, avec machin. Et c'est vrai qu'on dirait que vous cherchez des situations qui doivent être difficiles, comme vous l'expliquez, et qui sont intéressantes pour nous, parce qu'on n'est pas des voyeurs dans une petite intimité, parce qu'à chaque fois, il y a quand même un contexte social ou politique. Et d'un autre côté, on sent ces encombrements. Je trouve que ça fait des films très humains, en fait, quelque part.
Bah, de toute façon, là, moi, je ne fais pas des sujets. Parce que ça, c'est le travail des journalistes, finalement, de traiter des sujets. Je ne donne pas d'informations. Donc, pour moi, enfin, moi, je comprends le monde à travers ce que je ressens. Voilà, je le comprends. Si ça ne passe pas à un moment par je ne sais pas où, mais pas que par le cerveau, ailleurs, hein. Je ne comprends pas bien. Et une fois que c'est passé dans cet ailleurs des sentiments de la colère, l'indignation, de l'amour, de l'émotion, je comprends. Donc je crois que je fais mes films pareil, c'est-à-dire que j'ai besoin d'être là où voilà, ça passe par là pour fabriquer du sens, en fait. C'est ça qui, pour moi, a du sens, c'est-à-dire c'est cet aller-retour, effectivement, je sais pas comment le dire, ce n'est pas le sujet, c'est pas la politique non plus, c'est, en tout cas, c'est le questionnement et qu'est-ce qui se joue pour... En fait, je pars... je crois que la télé fait... l'inverse, c'est-à-dire qu'elle part du sujet pour aller vers l'intime, et du coup ça ramène ça dépolitise en étant sur de l'intime. Moi je pars de l'intime pour faire du politique, ouais. Ce qui est pas pareil, ce qui est une façon de politiser au contraire les les questionnements individuels, là, et de les replacer dans du collectif.
Ça c'est un peu votre démarche, mais quand même vous présentez vos films, passent à la télévision, il y a une présentation au public. Donc, quelque part, il y a un sens. Pourquoi vous faites des films? Pourquoi vous les montrez? En plus de ce que vous vivez en les faisant, quoi.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, oui, ça va de soi, mais ça va tellement de soi, je ne le dis pas. Mais oui, c'est des films politiques, au sens... chacun de mes films, je pense... peut-être à part un ou deux qui sont vraiment plus sur quelque chose de l'ordre du poétique, mais chacun de mes films est politique parce que je conçois mal de passer un an à faire quelque chose qui n'ait pas du sens pour moi et pour ceux qui le voient. Mais quand je parle de moi, c'est parce que je me sers de moi comme jauge, parce que je suis ma seule jauge. Donc je suis le premier public, donc je me dis ça marche pas, on me questionne en moi. Après, du coup, je me dis bon, a priori, si c'est, moi ça me touche, si moi ça me bouleverse, si moi ça m'indigne, ça devrait aussi, voilà, parce que le public, je sais pas ce qu'il est, enfin ça devra, voilà, c'est une abstraction, il y a des gens différents, donc ça c'est, voilà, mais évidemment, quand je me questionne sur moi, je me questionne sur le public, Voilà, ça me paraît plus. Voilà, parce que sinon, je sais pas quoi faire pour le public, pour quel public, pour vous. Enfin, ce sera. Voilà, c'est pas.
Je ne sais pas si d'ailleurs dans le public de ce matin, il y a des gens qui ont assisté au film hier et qui avaient envie de poser une question sur mourir plutôt crever ou je ne sais pas. Mais autrement, ça peut se faire aussi. Bon, Stéphane, elle est là avec nous pendant plusieurs jours, donc vous pourrez aller là en discuter avec elle. Là, je sais que les micros sont loin et que ce n'est pas très agréable se lever pour venir poser la question. Alors l'intime qui nous amène vers des questions vraiment fortes, on en arrive un petit peu au film de ce soir, puisque Petit arrangement avec la vie, c'est un film où tu vas retrouver un ex-compagnon et qui vient d'apprendre qu'il est malade et qu'il a un cancer très avancé. Tu peux nous raconter un petit peu ce film, comment c'est arrivé ce processus, parce que là tu n'es pas la réalisatrice au départ de ce film, c'est Christophe qui donc décide de prendre sa caméra. On imagine en voyant le film qu'il a fait ce dans quoi il se sentait le plus à l'aise, c'est-à-dire reprendre une caméra et repartir en tournage quand il apprend cette terrible nouvelle. Et à partir de là, toi, tu es au courant du processus dès le départ. Comment tu vas te joindre à ce projet?
Alors, en fait, donc Christophe apprend sa maladie et très vite, il a envie de faire un film. Il sait qu'il est condamné, pas dans les 6 mois, mais il sait qu'il a 2-3 ans devant lui, quoi, en gros. Et donc, il décide de faire un film. Et Christophe était quelqu'un qui remettait sans cesse sur le métier. Il avait du mal à démarrer ses films, il avait du mal à les finir. Il était toujours très angoissé, il reprenait, repartait. Donc, voilà, un processus assez long, on en parle assez longuement. On se voyait régulièrement, on parlait de sa maladie et du film. Arte accepte le projet et puis à un moment il me dit écoute, est-ce que tu veux être en co-réalisation avec moi? Et moi j'entends est-ce que tu veux assurer, me promettre d'assurer la fin du film si jamais? Et donc je dis oui, mais j'entends pas en fait ce qu'il me dit. Il me dit pas ça, il me propose vraiment une co-réalisation à ce moment-là. Mais je le comprends pas et je lui dis mais écoute, c'est ton film, moi j'ai rien, je suis pas sur ce questionnement là, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi je veux bien être là, mais voilà. Et puis le temps passe et tout ça, et finalement pour mettre en route son film, on fait un premier entretien tous les deux. Je dis bon écoute, ça te servira à écrire ta voix off, il voulait écrire une voix off. Et on fait ce premier entretien et en finissant l'entretien, tous les deux, on sait en fait quelle va être ma place, c'est de mener ces entretiens en fait au fil de son tournage. Et donc là, on a trouvé la façon de fabriquer ce film à quatre mains, c'est-à-dire que Christophe va aller filmer dans un hôpital où il y a des gens, pas un hôpital, un centre. Où il y a des gens où des diagnostics vitaux sont engagés, enfin des questions autour de ça, donc il va aller là-bas pour questionner les gens, pour discuter avec eux, et moi je vais le filmer au fil de pendant qu'il filme. Donc c'est à la fois un film sur évidemment son questionnement à lui, qui parce qu'il en fait il s'énervait parce que les gens il voulait avoir des réponses sur la mort et les gens lui répondaient sans arrêt la vie en fait, évidemment, et donc ça l'agaçait au plus haut point, mais en même temps c'est très beau parce que voilà, c'est la vie qui émerge sans arrêt tout le temps, et lui aussi finalement sa réponse c'est évidemment la vie puisqu'il fait un film et qu'il est au travail et qu'il est et qui retrouve le plaisir de parce que en plus Christophe est un magnifique opérateur, donc il était très caméra épaule, bon là, il est moins dans le film parce que le film ne le nécessite pas, et puis aussi physiquement c'est quand même difficile, mais voilà, il retrouve tout ce plaisir, tout ce et donc c'est un film aussi sur comment se fabrique un film, qu'est-ce que c'est que la relation, parce que c'est très beau, j'aime beaucoup les échanges qu'a Christophe avec les gens, comment il fait, comment il s'y prend, les questions, les trucs chiants qu'on doit faire, l'espèce de plan là qu'on fait, on sait qu'on s'en servira jamais, mais on le fait quand même. Voilà.
Ils sont passés l'armée.
Et il y avait d'autres parties que Christophe voulait filmer, mais qu'il n'a pas faites. Et donc, après ce tournage, en fait, il a plus beaucoup... il est retombé assez malade. Hein. Et donc, il n'a pas démarré le montage. Et donc, on a monté avec... j'ai monté, heureusement, avec Bernard Sazia, qui était... un des monteurs de Christophe qui avait monté beaucoup de films avec lui, et moi j'avais aussi monté un de mes premiers films avec lui, donc du coup c'était chouette de partager avec quelqu'un qui avait la même complicité avec Christophe, avec lequel mais
c'est un film très sobre, mais c'est vrai que nous, ce qui nous a vraiment porté en tant que pour sélectionner, choisir ce film, c'était vraiment comment tu filmes le regard de Christophe, il a une sorte de grande naïveté, quoi. On touche à l'humanisme du documentariste qui s'adresse à l'autre et qui, en même temps, petit à petit, dans son regard, on voit aussi sa prise de conscience personnelle. C'est rare, en fait, de voir le documentariste filmer. Et dans un moment aussi, et puis c'est tous ces petits temps en aparté que tu as avec lui, où il se confie, où en même temps il est très concentré sur son film, il s'agace, il n'arrive pas à voir ci, à voir ça. Donc il est toujours vers les autres, quoi. Lui, il est entièrement tourné vers les autres, et toi, tu te tournes vers lui pour lui choper des petits bouts de ce qu'il vit, de ce qu'il pense. Et voilà, c'est un film très simple. On vous invite vraiment à 21h. On se dit que pour arriver à faire ce cheminement-là avec lui et sur ce film, heureusement que tu avais filmé ton intimité, en tout cas de tes proches, filmé avec eux depuis déjà pas mal d'années, parce que ça a dû être un film effectivement très engageant, et avec cette difficulté dont tu parlais tout à l'heure déjà avec Ciné, de toujours prendre du recul par rapport à ce que tu es en train de faire, et qui est happant, quoi, parce que quand on filme son entourage, on est comme happé, et d'un seul coup, les idées se font peut-être moins claires.
En même temps, on savait très bien comment on allait filmer. C'est-à-dire que il y avait ce dispositif de double caméra dans les chambres, qui m'a permis de comprendre aussi. On dit toujours, il ne faut pas être trop nombreux et tout ça. En fait, on était à deux caméras dans les chambres de malades, et ça se passe. Les gens. Quand ils ont envie, ils ont envie, en fait. C'est pas très important, le dispositif qu'il y a autour. Et le reste, comme on avait... on discutait depuis 2 ans de son film, de son rapport à la mort, de ce qui, de ce que ça voulait... il me parlait beaucoup, il racontait beaucoup. Les petites annonces sur le journal, c'est quelque chose qu'il racontait sans arrêt, en disant à chaque fois je regarde les petites annonces funéraires sur un journal, je regarde l'âge des gens, donc tout ça était présent, donc il y avait une sorte de repérage qui avait été fait de façon donc moi je m'étais noté les choses qui m'avaient touché chez Christophe, et donc je repartais là-dessus pendant le tournage. Mais je crois que on peut pas faire on peut ni faire le film ni faire le montage, parce que on me pose la question du montage. En fait, j'ai démarré le montage tout de suite, quasiment au lendemain de l'enterrement, puisque j'avais pas envie de laisser passer du temps et de me remettre là. Enfin, ça me semblait plus difficile. Mais je montais quelqu'un de vivant. Si je montais un mort, c'était fini. on pouvait pas. Donc, voilà, avec Bernard, on l'engueulait, on disait, non, mais là, sincèrement, tu ne peux pas dire ça, Christophe. Enfin, voilà, on était dans ce rapport-là, parce que sinon, je ne sais pas quel film j'aurais fait, mais un film probablement morbide. Et là, on était avec Christophe en disant, voilà, là, il est émouvant, là, il est agaçant, là, voilà, et donc, parce que, voilà, donc finalement, je sais pas, on oublie, on met de côté, d'autant que la pression, voilà, en sortant du cimetière, moi j'avais toute la famille, Arte, Fabrice Puchot étant un ami intime de Christophe, le producteur, tout le monde qui m'a dit, on te fait confiance. Je pars. Donc c'était vraiment voilà. Donc si on prend tout ça, on peut pas quoi. Donc il faut se débarrasser de tout ça, être avec un personnage, parce que dès qu'on travaille quelqu'un sur un écran, il est un personnage, il n'est plus la personne, puisqu'il n'y a qu'un bout de ce que la personne est qui est dans le film évidemment. Après c'est évidemment le bout. Qui me touchait. Là, je reviens à. Voilà, j'ai travaillé avec mes sentiments, ceux de Bernard, le monteur. Voilà, et quand on éprouvait les mêmes choses devant les images, voilà, là aussi, c'est qu'est-ce que. Et donc, j'ai travaillé avec les émotions. Je travaille toujours avec les émotions.
Ouais, et alors, oui, je ne savais pas que tu avais commencé le film juste après l'enterrement, mais c'est vrai que. Bah, dans la thématique qui s'ouvre là pendant 2 jours, on va avoir beaucoup de films qui ont été réalisés sur des proches et par leurs auteurs. Et du coup, c'est vrai qu'on sent aussi souvent que les films ils participent au processus de deuil. Et du coup, c'est aussi une façon de continuer d'être proche des gens et d'accompagner ce départ, quoi. Mais voilà, je pense qu'on peut y revenir ce soir, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose, parce qu'on va, à 21h, on présentera le film dans la grande salle.
Moi, c'était juste pour faire une remarque dans la société française où la mort est cachée, tabou, et on ne l'a pas dans le quotidien, on l'avait avant, mais. Et donc, là, c'est comme un exutoire des cinéastes s'y mettent pour nous dire, mais si, elle est là, s'il y a la vie, c'est qu'il y a la mort. Et c'est intéressant parce que. Moi, j'ai l'impression vraiment que dans notre société, c'est totalement caché. Ça ne fait pas partie de la vie, la mort. Or, c'est indissociable.
Oui, oui. Mais c'est ce qui est la grande leçon. C'est con de dire ça, mais bon, tant pis. Mais c'est que j'ai entendu, moi, dans ce film, c'est que tant qu'on n'est pas mort, on est vivant, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose. Enfin, on est en vie, en fait, bêtement, simplement, profondément. Voilà, et on n'est pas à moitié mort, on n'est pas, voilà, il y a quelque chose, enfin peut-être sur le dernier, vraiment tout dernier moment, mais voilà, voilà, on est totalement là et avec des rêves, des désirs, tous vraiment, parfois de façon illusoire, hein, mais voilà, c'est de prendre aussi cette dimension-là que d'accepter de regarder la mort. C'est il y a quelqu'un qui m'a dit, après avoir vu le film, ça apprivoise la mort, en fait, le film. Il y a quelque chose, ça permet d'y faire face un peu, quoi.
C'est exactement ça. Nous, on s'est dit ça, et effectivement, avec ces films, moi, ça me fait penser aussi à le début de ton film Mourir ou plutôt crever, avec le cactus doigt d'honneur sur la tombe que Ciné prépare soigneusement pour la visite de la conservatrice. Comment elle s'appelle ? La conservatrice du cimetière de Montmartre.
Ça, c'est les cadeaux du documentaire. Quand on a un personnage secondaire comme ça, parce qu'évidemment, autant Benoît et Ciné. Voilà, ils étaient choisis. Enfin, autant la conservatrice, quelle chance, quel bonheur.
Elle rentre dans le jeu.
Ah ouais, ouais, ouais. Elle en rajoute, elle est même meilleure qu'eux. Très drôle qu'eux.
Vous n'aurez pas de vis-à-vis. Là, bien, là.
Et là, il y a vraiment faire la nique à la mort avec ce cactus. Moi, j'avais envie de finir avec juste ce qui te porte en ce moment, vers quoi tu tends. On a vu peut-être certains, il y a Après Londres, hein, qui est sorti au cinéma et qui a été projeté, par exemple, à l'estive, à l'automne, parce que c'est vrai que tu avais fait un travail long, aussi on n'en a pas parlé, mais sur le monde des prisons. On avait projeté en 2009 à Résistance à côté sur les femmes de détenues. Et donc là, c'est un travail autour du théâtre. Je crois que tu es aussi sur le théâtre. Tu viens de finir un autre film.
J'ai travaillé avec ce metteur en scène de théâtre qui a une approche assez proche de la mienne. Donc, on a travaillé ensemble sur la prison. Et puis après, il a fait un film sur les trans en Espagne, en Catalogne. Et donc j'ai suivi aussi cette aventure-là, et c'était vraiment super, c'est super chouette, c'était super marrant, c'était vraiment là aussi, en fait il y avait 7 personnes, donc on arrive et puis voilà, on est là, on dit c'est un homme, une femme, enfin on est pris par des questionnements hyper binaires tout le temps, et puis évidemment au bout d'un moment on s'en fout quoi, en fait c'est pas la question, et donc ça c'est vraiment super. Je crois que le film permet de faire aussi ce cheminement là, que voilà, au bout d'un moment on s'en fout et on est avec des gens et leurs histoires et voilà. Et c'est un film assez gay aussi parce que en fait comme ils ont accepté, ils ont dépassé, du coup ils sont dans un moment où ils sont hyper voilà, ils sont contents quoi, d'être devenus ce qu'ils voulaient être, même si c'est difficile et douloureux, mais voilà, ils sont quand même ce qu'ils sont. Ouais. Et là, en fait, je travaille sur des projets assez difficiles avec trouver des sous. J'ai fait un truc, je commence un truc sur les vêtements. Donc j'ai demandé à des gens de venir avec un vêtement et de m'en parler. Évidemment, vous imaginez bien que je ne fais pas beaucoup dans la mode, même si j'ai essayé d'introduire quelques petites choses quand même de gens qui travaillent le vêtement. Mais voilà, j'ai une femme gilet jaune, j'ai un réfugié avec ce qu'il lui reste de sa traversée, j'ai voilà, une ado et sa valise de garde alternée. Donc je travaille ça, mais bon, personne n'en veut pour le moment. Et si vous avez des idées, je suis preneuse. On va faire un petit tour dans la région sur des gens qui veulent créer un habitat participatif à la retraite, quoi. Enfin, après la retraite, qui essaient de se mettre ensemble. Voilà, les Baba Yaga. Suivre une aventure, enfin la suivre non parce que c'est très très long, mais trouver des gens qui sont au bon moment, parce que sinon la construction tout ça, ça peut être des histoires sur 5, 6, 7 ans, voilà, mais donc je suis en repérage là-dessus.
Bah alors vous pourrez venir voir Stéphane si vous avez des exemples à lui proposer. Moi je sais qu'il y a des gens qui sont battus à Pamiers pendant des années pour monter un projet de cet ordre et ils ont dû abandonner parce que entre les banques et le reste, ça a été compliqué. Merci beaucoup à Stéphane de commencer ces journées avec nous. Et puis, on va continuer dans 5 minutes. On reprend la conférence pas pressée avec tous nos invités du jour.